Song die je don su di chou nan la zhang zhu ba du dan ne jia zu qi da jie jin su di bei sen nan ni zhou la pen jie song die zhu pa shou en les bouddhas dharma et sangha jusqu'à l'éveil j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Ce soir, nous allons continuer l'étude des 37 pratiques de Bodhisattva. La dernière fois, je vous en avais fait une présentation générale. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le texte. Vous l'aurez bientôt pour ceux qui sont avec nous online sur l'écran. Ce sera la prochaine étape. Pour l'instant, elle n'est que sur papier. Le texte de Tomé Sampo, nous avons vu qui il est la dernière fois, commence par hommage à Chenrezig. Donc, toutes ces pratiques de Bodhisattva, 37 que nous allons voir, sont inspirées par Chenrezig. Elles sont la pratique de l'activité de Chenrezig, de l'activité de bonté, d'amour, de compassion, de l'éveil, Chenrezig, Bouddha de la bonté, ou qualité d'amour, de compassion, d'empathie, de l'éveil. Aussi, en préliminaire, rendons hommage ainsi à Chenrezig. Hommage dit se développe en deux stances qui commencent en disant Maître suprême et protecteur Chenrezig, qui voyez toutes choses sans aller ni venu, et pourtant vous consacrez au seul bien des vivants, avec mon corps, ma parole et mon esprit, je vous rends un constant et respectueux hommage. Chenrezig, maître suprême et protecteur, et l'on considère notre maître et Chenrezig comme n'étant pas deux, comme étant inséparables. Et Chenrezig est l'inspirateur suprême. L'amour absolu, cette inspiration protectrice des peines, des souffrances, de toutes les difficultés du cycle des existences conditionnées. Donc, Chenrezig est protecteur et sa qualité, ses qualités ont cette activité ou sont cette activité de bonté, d'amour qui prend soin de tous les vivants et qui tous les protège. Et qui voyez toutes choses sans aller ni venir, qui voyez tous les phénomènes au-delà des conceptions habituelles, qui avaient la vision directe, immédiate de la nature des phénomènes, au-delà des prapancha, dit-on en sanskrit, c'est-à-dire des projections conceptuelles, que ce soit considérant les choses comme étant, comme n'étant pas, comme étant éternel, comme n'étant rien, comme naissant, cessant, allant, venant. Ce sont les huit grands types de conception, ou encore une ou multiple, l'unité et la multiplicité. Au-delà de toutes ces conceptions, de toutes ces doublets d'opposés, dans l'expérience de l'immédiateté absolue. Vous voyez la nature de tout phénomène qui ne va ni ne vient, ni samsara, ni nirvana, ni quittant samsara, ni entrant en nirvana, au-delà de ces allées et venues. Et pourtant, bien que vous ayez, Chenrezi, cette réalisation de l'ultime vacuité, vous vous consacrez au seul bien des vivants. Cette réalisation se consacre, œuvre continuellement, perpétuellement, pour le bien des vivants. Telle est la nature de cette réalisation, cet amour absolu, amour qui est la nature de l'absolu. Et à vous, Chenrezi, avec mon corps, ma parole et mon esprit, c'est-à-dire tout ce que je suis, ma personne avec ces trois dimensions, corps, parole, souffle et esprit, je vous rends un constant et respectueux hommage. Puis, la stance suivante dit « Les parfaits Bouddhas sont source de tout bienfait et bonheur. Ils naissent de la pratique du Dharma sacré, dont la réalisation dépend de la compréhension. Aussi vais-je expliquer les pratiques des fils des vainqueurs. » Alors, dans cette stance, plusieurs idées. Les parfaits Bouddhas sont source de tout bien et de tout bonheur. Les parfaits Bouddhas viennent du Dharma sacré. La réalisation du Dharma sacré dépend de la compréhension. C'est pourquoi Tomé Sampo va expliquer ce que sont les pratiques des bodhisattvas, les pratiques des fils des vainqueurs. Maintenant, en détail, vers par vers, les parfaits Bouddhas. Alors, qu'est-ce que Bouddha? Dans une explication traditionnelle, Bouddha se comprend dans le sens même du terme. Bouddha en tibétain se dit Sangye. Sang a le sens de purifier ou a le sens de dissiper et Gye a le sens d'épanoui. Et Sangye, Bouddha, s'explique comme l'état ou l'état de la personne qui a purifié les illusions et l'obscurité de l'ignorance et qui s'est éveillé, épanoui en les qualités de l'éveil. Et donc, les parfaits Bouddhas, ceux qui ont réalisé le parfait éveil, le parfait état de Bouddha, alors, il y a le parfait état de Bouddha et les parfaits Bouddhas qui ont réalisé le parfait état de Bouddha. Ils sont source de tout bienfait et bonheur. Bienfait, dans le sens de vertu, de tout ce qui est sain. Dans la perspective médicale, thérapeutique du Dharma, vertu, santé, bienfaits fonctionnent ensemble. Ce qui est bien fait, ce qui est fait bien et ce qui fait du bien. Et ce qui fait du bien aux autres et à soi est vertueux. Et ce qui est vertueux est sain, sain ou santé, sain qui est. Et la santé et le bonheur, le bien-être, l'harmonie. Donc, les parfaits Bouddhas sont source de tout bienfait et bonheur. Ils naissent de la pratique du Dharma sacré. L'état de Bouddha, la réalisation de Bouddha, vient de la pratique, de l'entraînement, de la méditation, de l'entraînement, la transformation de soi. C'est ce que transmet, c'est ce qu'exprime le Dharma. Alors, Dharma sacré, sacré ici a le sens d'authentique, véridique. Dharma a le sens de réalité. Alors, qu'est-ce que le Dharma ? Le Dharma est l'enseignement de réalité. Dans l'état de Bouddha, l'état d'éveil, naît de la pratique de l'enseignement de réalité. Et la réalisation de la réalité est l'état de parfait Bouddha. Et la pratique du Dharma, à son tour, vient de la compréhension. Alors, ils naissent de la pratique du Dharma sacré, les parfaits Bouddhas, dont la réalisation du Dharma, dépend de la compréhension. On le verra un petit peu plus loin, plus en détail, mais c'est la compréhension de ce qui est, la compréhension de la réalité, la compréhension de notre nature, la compréhension de la nature de l'esprit. C'est la réalisation de cette compréhension dans une expérience directe, immédiate, non duelle, aconceptuelle. Donc, la réalisation dépend de la compréhension qui commence dans la compréhension des pratiques. Aussi vais-je expliquer les pratiques des fils des vainqueurs. Je vous invite à ce point, et nous le ferons tout au long de notre étude, à ce que nous chantions les stances. Ça n'est pas particulièrement pour faire un exercice de chant, quoique chanter dans la pleine présence est excellent. Selma, qui a les textes, pour l'instant, il n'y en a pas de copie encore pour tout le monde. Donnez-en celle que vous... Non, nous avons revu la traduction. Suivez déjà à deux avec votre voisin, il chante bien. Les dames qui chantent bien, je ne sais pas s'il y en a, vous pouvez vous approcher. J'ose pas. Dans nous allons le chanter en jodan, les deux premières stances. J'entonne en disant hommage à Chenrezig et les Zumze qui conduisent le chant suivent avec la première stance. C'est bon? Hommage à Chenrezig,
maître suprême et protecteur Chenrezig.
Non, j'ai dit stop. J'ai dit en jodan. Ça, ça n'est pas le jodan. L'air jonamba.
Membre suprême et protecteur Chenrezig, qui voyez nous de choses sans aller ni venir, mais pourtant vous consacrez-vous Ave, mon corps, ma parole et mon esprit. Je vous rends un bon sang et respectueux, dont la réalisation dépend de la compréhension. Aussi vais-je expliquer les pratiques des fils des vainqueurs.
Les fils des vainqueurs, ce sont les bodhisattvas, les vaillants, les vaillantes, les pratiques des fils et filles des vainqueurs. Peut-être vais-je expliquer les pratiques des enfants des vainqueurs. C'est une façon de tourner la difficulté. Aujourd'hui, on se fait épingler pour des choses comme ça. Sexisme. Expliquer les pratiques. On va voir. Est-ce qu'il y a, avant que nous continuions, des questions sur ces deux premières stances? Nous procéderons ainsi, stance par stance, et s'il y a des choses à préciser, vous aurez la parole à chaque étape. S'il vous plaît.
Est-ce que je répète alors pour la caméra de poser la question du parfait Bouddha et du coup de l'imparfait Bouddha, alors si on devait jouer sur les mots, et voilà, si c'est pas un pléonasme.
Alors il y a deux points que l'on peut envisager. Le Bouddha a réalisé le nirvana. Il y a des nirvanas plus ou moins parfaits, et de ce point de vue, on pourrait parler de Bouddha plus ou moins parfait, mais surtout, ce que l'on exprime ici, c'est que Bouddha, l'état de Bouddha, la bouddhéité, est l'état de perfection. Donc, parfait Bouddha, ici, exprime la perfection de la bouddhéité, si vous voulez. Bien, d'autres, s'il vous plaît.
Alors, bonsoir Rinpoche. Une question de Dechen qui demande, doit-on chanter en gutturalisant comme Rinpoche? Si oui, est-ce culturel?
En quoi?
De façon...
En gutturalisé.
Oui, voilà. Dans la gorge. Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce qu'il y a un sens symbolique ou énergétique? Elle vient de Marseille.
Dans le chant traditionnel, alors, hormis le fait que je chante mal et que je suis un mauvais chanteur, ce n'est pas vraiment sur moi qu'il faut prendre un exemple, mais le chant traditionnel n'est pas un chant comme le chant occidental ou un chant d'opéra avec une intention esthétique particulièrement développée. Alors, le chant est joli, mais c'est une expérience de présence, donc une pleine présence chantant, pleine présence, enchanté, dans un état de détente et de relaxation. Et si vous êtes détendu et relaxé, votre voix va naturellement se poser dans un registre grave. Dans un registre grave, détendu et ouvert. Et vous êtes une sorte de caisse de résonance. Donc, ce chant détendu et à tonalité grave, mais grave pour chacun. Si l'on est une femme, ce sera un plus haut, mais c'est ouvert et détendu avec cette qualité de résonance. Est-ce que l'on nomme le duquet? Le duquet est le chant des tantras. Donc, il y a dans les tantras et les pratiques tantriques cette façon particulière de poser la voix et de chanter dans un registre grave, détendu et ouvert. Donc si vous avez déjà entendu des chants tibétains, c'est ce type de voix très... Voilà. D'autres remarques? Nous allons aussi maintenant commencer la première stance du texte proprement dit, après l'hommage. Cette première stance traite de ce que nous sommes ici, aujourd'hui, et des possibilités de notre vie. Il s'agit de considérer notre vie, de considérer notre existence humaine présente, et de prendre la mesure de ses qualités, de ses ressources, de ses potentialités pour donner son sens à notre vie humaine et aussi développer de la confiance fondamentale, la confiance en soi. Et dans cette confiance, cheminer avec courage. La stance dit « J'ai maintenant ce rare et grand vaisseau libre et qualifié pour qu'il traverse l'océan du cycle qui est le moi et l'autre, s'appliquer le jour et la nuit sans faiblir, à écouter, réfléchir et méditer, telle est la pratique des fils des vainqueurs. » On verra pour changer en enfant, mais pour l'instant, ça fera un pied de plus. Donc, j'ai maintenant ce rare et grand vaisseau libre et qualifié. Donc, j'ai ou je suis dans cette existence humaine. Le grand vaisseau, alors, l'image du vaisseau est celle du véhicule pour traverser l'océan. Rare car il est difficile à trouver. Parmi toutes les possibilités d'existence, l'existence humaine est rare. Et parmi toutes les existences humaines, celle qui a la capacité de se consacrer à la voix est rare. Dans les existences humaines, il y a les trois existences humaines, la mauvaise, l'indifférente et la bonne. La mauvaise existence humaine fait des choses négatives et nuisibles. L'indifférente ne fait pas grand-chose de bon, pas grand-chose de mauvais. Elle est banale, vulgaire. Et la bonne existence humaine est celle qui est capable d'utiliser cette existence, ce corps humain, comme base, support de la voie d'éveil et de la libération. Aujourd'hui, nous avons ce rare et grand vaisseau libre et qualifié. Alors, c'est une façon traditionnelle d'exprimer les qualités de cette précieuse existence humaine, comme on dit. Elle est libre. Nous avons la liberté de cheminer, nous avons la liberté de suivre la voie d'éveil. Et l'on distingue en détail 8 libertés qui sont la liberté des états samsariques en lesquels l'on est asservi par les passions ou attaché au bonheur ou encore en lesquels on est prisonnier de compréhensions erronées. Donc, on est libre de tous ces états, nous sommes libres de tous ces états, et nous sommes qualifiés. Et nous avons toutes les qualités requises pour la voie. On en distingue 10 de qualités. 5 qui nous sont propres et 5 qui viennent de l'environnement. Les 5 qui nous sont propres, c'est d'avoir toutes les facultés, les possibilités humaines dans ces différents aspects. Et celles qui dépendent de l'environnement sont que nous soyons dans un cycle cosmique où il y ait eu un Bouddha qui l'ait enseigné, ce n'est pas toujours le cas, que l'enseignement perdure, jusqu'à aujourd'hui, que l'on puisse encore disposer de la possibilité de le recevoir et que l'on ait établi avec celui-ci un contact, une relation. Toutes ces libertés, toutes ces qualifications qui font ce que l'on nomme la précieuse existence humaine ou le précieux corps humain. Nous l'avons maintenant, il est rare, et ce qui est rare est précieux. Pour qu'il traverse l'océan du cycle, pour que ce vaisseau puisse traverser l'océan du cycle, cycle signifie le cycle des existences, le cycle des états de la conscience duel. Cycle est le samsara. Samsara, littéralement, signifie cycle. Le cycle de la conscience et des existences habituelles qui est comme un manège ou la roue de la vie qui tourne de haut en bas et de bas en haut dans les états multiples de la conscience. Pour traverser l'océan de tous ces états de la conscience avec tout leur mal-être et leur souffrance et arriver à la libération. Alors, le cycle ici est défini du cycle qui est le moi et l'autre, c'est-à-dire le cycle de la dualité. Quand je dis le cycle de la conscience, c'est aussi le cycle de la dualité. La conscience est duelle, toujours, et la dualité et l'expérience de la conscience duelle. Donc pour réaliser la non-dualité, l'éveil non-duel, il s'agit de s'appliquer jour et nuit sans faillir, continuellement, le jour, la nuit, à écouter, réfléchir et méditer. Écouter, réfléchir, méditer sont les trois étapes du cheminement et de la pratique. Il s'agit d'abord d'écouter l'enseignement, d'être dans la réceptivité, d'être un bon réceptacle qui puisse accueillir, recueillir, intégrer. Cette réceptivité, donc une attention. Alors, l'écoute, c'est aussi l'étude. On entend, on étudie l'enseignement. Et dans le contexte du Dharma, qui est non dogmatique, il ne s'agit pas de prendre les enseignements pour comptant, il s'agit de les examiner. La deuxième étape est la réflexion. Réfléchir, considérer, examiner. Comme dit le Bouddha, si vous retenez mon enseignement, que ce ne soit pas parce que c'est moi, le Bouddha, qui l'a transmis, mais que ce soit après l'avoir examiné, testé, vérifié, et ainsi validé. Donc, réflexion, examen et réflexion. Et ensuite, méditation, écouter, réfléchir et méditer. Méditer, c'est l'expérimentation proprement dite. Donc, il s'agit de vivre ce dont il s'agit, de le découvrir dans son expérience. Et c'est la méditation, l'expérimentation qui amène la véritable compréhension libératrice. Il y a là toute une démarche expérimentale. On écoute, on considère, et ce qui a été considéré comme étant juste est expérimenté dans la pratique méditative contemplative. Et il s'agit de vivre cette pratique continuellement, alors, jour et nuit, y consacrer pleinement toute sa vie, alors, suivant les circonstances, mais le jour, le matin, en commençant, en imposant la motivation, toute la journée, en cultivant cette motivation et en étant dans la pleine présence, et le soir, en considérant rétrospectivement la journée, en sachant voir là où l'on a réussi, là où l'on a manqué, faire un bilan, se réjouir de ce qui a été réussi, regretter les ratés et se dire qu'ultérieurement, on sera particulièrement attentif là où l'on a failli. Bon. L'attention, la vigilance, la pleine conscience, la pleine présence et les différentes qualités s'appliquent et se cultivent dans l'entraînement jour et nuit. Et ainsi, écouter, réfléchir et méditer, telle est la pratique des enfants des vainqueurs. Est-ce qu'il y a des remarques, observations ou questions sur cette stance ?
Alors, Il y a une question en ligne de Philippe qui dit Rinpoche.
Bonsoir Philippe.
Pouvez-vous préciser ce que veut dire avoir toutes les capacités humaines?
Toutes les qualités humaines. Ouais. Toutes les qualités humaines, c'est avoir tous les sens, avoir être doté de toutes les de tout ce qui fait un homme, une femme, un humain, avec la plénitude des facultés sensorielles dans les différents sens, et particulièrement dans la capacité de compréhension, car c'est celle qui est la plus importante, en ayant une aptitude à comprendre, un mental qui est la capacité d'entendre, de comprendre. Dans les autres sens, on peut avoir certaines difficultés ou handicaps, ça n'est pas déterminant, mais c'est dans la faculté de compréhension et d'intelligence que il est nécessaire d'avoir une aptitude humaine, disons, normale. Si l'on n'a pas cette intelligence, il est difficile de pouvoir entrer dans une pratique authentique. Si l'on a une intelligence animale, essayez d'enseigner le dharma à votre chat, à votre chien ou à votre cheval, c'est pas évident en ce sens. Bien. S'il vous plaît, le bâton de parole arrive jusqu'à Anaïs.
Bonsoir. Moi, j'ai une question, en fait, sur... Enfin, c'est en rapport avec l'estance, mais... j'ai toujours pas compris en fait ce qui persiste d'une vie à l'autre en fait, et j'arrive pas à ne pas imaginer une genre de d'Anaïs qui tout d'un coup va disparaître et réapparaître, mais propulsée par son karma, mais toujours une Anaïs. Et oui, donc je comprends pas en fait.
C'est une bonne question. On va pas la traiter de façon développer tout de suite parce que ça pourrait être long, mais vous aurez la réponse, véritable réponse à cette question, quand vous saurez qui est Anaïs. Voilà. Et ce qu'est Anaïs. Et déjà, Anaïs est-elle dans le A, dans le N, dans le deuxième A, dans le I tréma ou dans le S? Cherchez, si vous trouvez. Et on se rend compte que notre nom, quel qu'il soit, Anaïs ou autre, est une désignation, conventionnelle, ou juste une étiquette. La preuve, c'est que quelquefois, on a plusieurs noms. Bon. Alors, déjà, si je ne suis pas ce nom, bien que je m'identifie à ce nom, après, où suis-je? Que suis-je véritablement? Il y a beaucoup d'examens et c'est important d'entrer dans ces examens. Que suis-je ? Est-ce que ce que je suis a une forme, a une couleur, a une localisation, a une caractéristique et... On cherche. Et lorsque l'on a trouvé ce que l'on est, l'on a trouvé ce qui renaît. Et pour terminer sur une petite et grande note humoristique, une parole attribuée à Kano Rinpoche, sache ce que tu es. Tu découvriras que tu n'es rien. Et n'étant rien, que tu es tout. C'est tout. Donc, je vous invite à ce que nous chantions pour terminer cette première stanze.
Il y a encore une question, en fait.
S'il vous plaît,
ligne,
alors.
Si vous voulez bien. De Fred des Bouches-du-Rhône, qui demande...
Bonsoir Fred.
Au départ du cheminement spirituel, tout du moins, même après un travail de réflexion d'un enseignement, n'y a-t-il pas une part d'adhésion à cet enseignement qui se base sur la confiance au Dharma ?
Oui. Il y a... Et la confiance est... aussi une des caractéristiques de la précieuse existence humaine. Si nous n'avons aucune confiance, aucune réceptivité, alors confiance et réceptivité, déjà, sont à comprendre comme synonymes dans une certaine mesure. Dans le Dharma, lorsque nous parlons de confiance, il ne s'agit pas de croyance. Bien sûr, on peut dire « je crois que la Terre est ronde » ou « je crois que le ciel est bleu », mais c'est une façon de parler. Lorsque nous disons qu'il ne s'agit pas de croyance, nous entendons qu'il ne s'agit pas d'adhérer à une croyance comme on peut adhérer à un credo. Donc, la confiance n'est pas croyance. Mais la confiance initiale est une réceptivité. Quand on rencontre une personne, une situation, ou lorsque l'on rencontre un enseignement qui fait écho en nous, qui a une... qui résonne ou qui nous parle et avec lequel on se sent en adéquation et en harmonie, c'est dans cette adéquation, harmonie, réceptivité que se situe la première forme de confiance qui se développe ensuite dans une aspiration, un élan pour aller vers ce que l'on a perçu de bon, et finalement aller vers l'éveil ou ce que l'on en a perçu. C'est la deuxième forme de confiance. Et la troisième forme de confiance est celle qui vient de la réalisation de ce dont il s'agit. Lorsque l'on a véritablement expérimenté que cela fait partie de notre être, de notre personne, et ça n'est plus du tout une confiance mentale, c'est une expérience indubitable. Donc il y a toute cette évolution de la confiance, et la confiance est très importante. C'est même ce qui permet de vraiment cheminer. Et la confiance est aussi le remède à la peur et au doute. Donc, la précieuse existence humaine est celle aussi qui a ces différents aspects de la confiance. Et tout à l'heure, je disais, la méditation sur la précieuse existence humaine amène la confiance en soi. Confiance en soi qui n'est pas la confiance en son ego, mais qui est la confiance en sa nature, sa confiance en ses potentialités, la confiance en ses ressources, la confiance en sa santé fondamentale, la confiance en son bon fond. Et c'est parce que cette santé fondamentale est notre nature qu'il nous est possible de la réaliser, qu'il nous est possible de nous y éveiller. On la chante ? Oui.
Je maintenant serai roi des eaux libres et qualifiées pour qu'il traverse l'océan du cycle qui est le moelleux. S'applique le jour et la nuit sans faiblir, à écouter, réfléchir et méditer. Telle est la pratique des fils des vainqueurs. Les anges d'une abombria dédiés au mien de nous les vivre en la réalité.
Sarva Mangalam, que tout soit propice. Bonne soirée, au revoir.